depuis Abidjan, Bamako, Kinshasa ou même N'Djamena, et Kabadou avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington, où il est 14h05 et 18h05 en temps universel. À votre avis, se penche ce vendredi 19 mai sur le cinéma africain. Les yeux du monde entier sont rivés sur le plus grand festival de cinéma au monde. Je parle bien sûr du Festival de Cannes, qui en est à sa 70e édition. Quelle est la place donnée au cinéma africain? On peut compter sur les doigts d'une main le nombre de réalisateurs africains primés. Qu'est-ce qui fait que le cinéma africain soit sous-représenté dans le monde? Quelle est la place du 7e art dans votre quotidien? Venez débattre dans votre émission pendant 30 minutes en direct. Pour participer, appelez au 001 202 619 31 40 ou laissez votre numéro de téléphone. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur www.voafrique.com. Avec nous pour débattre tout au long de cette émission, Toumani Sangaré à Bamako, également Daouda Koulibaly, également Arzuma Compaoré qui est avec moi, qui est cinéaste. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'espère
Bonjour.
Que... Bonjour, vous allez tous bien? Je pense qu'ils vont très bien, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas encore. Arzuma Compaoré, vous êtes un cinéaste reconverti au journalisme. Qu'est-ce que ce thème évoque pour vous? Car le cinéma africain, c'est un bien grand mot, mais ce n'est pas forcément une discipline qui est facile.
Alors, merci déjà de cette opportunité de me recevoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de cinéma africain, il faut reconnaître que c'est quelque chose... qui est toujours en pleine fabrication. Le cinéma africain est toujours en train de s'inventer. Mais je vais rejoindre un de mes grands frères, Cheikh Omar Sissoko, à qui j'ai parlé récemment, qui disait que un festival comme celui de Cannes, puisque c'est de ça un peu qu'on parle, c'est aussi une opportunité de crédibiliser en fait certaines productions africaines, de montrer qu'on fait du cinéma d'une certaine qualité qui rivalise avec les autres productions internationales que l'on peut retrouver, que ce soit en Asie ou aux États-Unis, parce que c'est une plateforme où tout le monde, tous les experts viennent se retrouver. Et donc le fait qu'on ait déjà eu des cinéastes africains qui aient remporté la Palme d'Or à Cannes, ça montre aussi que le continent peut produire des œuvres de qualité. Et ça, c'est très important.
Alors, le continent peut produire des œuvres de qualité. Le continent en produit avec des fois une qualité irréprochable et des fois en bricolant. Mmh. Quel est également votre avis sur ça, sur les moyens engagés et sur la technologie qu'on utilise en Afrique pour le cinéma?
Je veux dire qu'il y a beaucoup de progrès. Il y a 10-20 ans, on n'avait pas les mêmes facilités. Le numérique n'était pas encore là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'il fallait forcément en fait faire appel à des compétences ou à des compétences qui viennent uniquement de l'Occident. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut faire des œuvres de très grande qualité, de très bonne facture sur place, sur le continent. C'est vrai qu'il y a certaines facilités de diffusion, comme quand on parle de télécinéma, une conversion en fait des productions qui sont tournées en vidéo, en film, mais avec de plus en plus les tendances, on ne produit plus vraiment en film et les choses sont en train vraiment de s'équaliser et tout le monde peut vraiment avoir son mot à dire.
On a de nombreux auditeurs qui souhaitent participer. On a également des réactions sur Facebook. Je note notamment celle de Diallo Tierno Oumar qui nous explique que l'Afrique a beaucoup d'acteurs qui ont vraiment du talent, mais très malheureusement, ils n'ont pas de ressources matérielles et financières. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est vrai. Je pense que on peut reconnaître quand même le talent. Parce que ce que je dis tout le temps, la confusion que beaucoup font quand on parle de cinéma, c'est surtout d'acteur. Le but pour un bon acteur n'est pas de prétendre, mais c'est d'être. Et donc une des forces que beaucoup de nos réalisateurs arrivent à utiliser, c'est de pouvoir prendre les acteurs dans leur univers réel et de leur faire en fait faire des choses qu'ils font de façon naturelle. Et donc lorsque vous arrivez à ça, il n'y a pas meilleur jeu d'acteur que cela, de pouvoir avoir quelqu'un reproduire son état émotionnel naturel et de pouvoir jouer de façon naturelle.
Et il y a aussi des acteurs qui sont qui ont ce talent inné en Afrique.
Voilà, tout à fait. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut, il faut jouer avec. Je connais particulièrement plusieurs, un de mes mentors, je dis bonjour en passant, Idrissa Ouedraogo, qui...
C'est un nouveau mentor.
qui n'hésite pas en fait à justement jouer avec ça, jouer avec le fait que la plupart des comédiens, des acteurs qui l'utilisent, c'est pas des professionnels, mais il arrive à, quand même à travailler avec eux de sorte qu'ils te produisent quelque chose d'authentique que de vrai. On prend le cas d'Alain Gomis, tout récemment avec son dernier film, Félicité, c'était le cas.
Un très beau film d'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir, il est encore en salle. On va essayer de voir si à la régie on peut de nouveau avoir les personnes que nous comptons avoir, notamment Toumani Sangaré qui est à Bamako, qui a fait le choix de quitter Paris avec son groupe Courtrajmé Afrique, dont le Courtrajmé local était parrainé par des artistes comme Vincent Cassel. Et Toumani Sangaré a fait le choix de repartir au Mali pour créer une dynamique, des séries et même un film qui s'appelle No Goshi qui n'est pas encore sorti, dont les images que nous pouvons avoir sur le net sont d'une extrême beauté. Toumani Sangaré, vous êtes en ligne ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, vous ?
Alors vous avez fait le choix de quitter l'Europe et de retourner en Afrique, au Mali, dont vous êtes originaire, pour créer des choses sur place. Est-ce que cela est facile ?
Ben, d'une certaine manière, moi je dirais que c'est plus facile pour moi de faire les choses au Mali qu'en France, malgré mon parcours avec Courtrajmé en France, mes amis réalisateurs comme Kim Chapiron, Romain Gavras, avec qui j'ai créé le collectif en 1995. Et pour moi, bizarrement, oui, ça s'est fait plus facilement. J'ai pu, en 2 ans, depuis que je suis retourné au Mali, produire une série télé et un long métrage. Voilà.
Alors, on salue les auditeurs qui nous écoutent au Mali, et je sais que vous êtes très attendus car vous avez tourné dans des zones qui sont vraiment très sensibles, votre film No Goshi, et vous avez plus de 2 heures de montage actuellement. C'est une fierté pour le pays, et justement, est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans chacun des pays africains d'avoir des images qui représentent et qui nous représentent ? Qu'est-ce que vous avez envie d'expliquer par rapport à votre projet ? Est-ce qu'il est soutenu ?
C'est vrai qu'on a un énorme soutien de la part des Maliens. Ils trouvent en No Goshi, c'est vrai, un univers, une façon de se réapproprier de manière noble et glorifiante nos traditions, notre continent. Et c'est vrai que j'ai même eu des mails de Maliens de la diaspora à l'étranger, aux États-Unis, des Congolais, etc., qui m'ont sollicité par rapport aux images que j'ai pu présenter sur Internet. Et je vois que c'est vrai, effectivement, ça suscite un grand intérêt. Dans ce film, je me réapproprie les codes du héros à l'américaine, etc. Donc voilà, mon héros est un athlète extrêmement bien
bâti.
Enfin voilà, on est dans des codes de films de divertissement qui permet de donner une autre image de se projeter dans quelque chose de différent de ce qui a pu exister, je pense, jusqu'à présent.
Est-ce que vous avez eu besoin de financement particulier ? Vous avez pu vous en sortir tout seul ? C'est aussi une question auxquelles des cinéastes qui nous écoutent doivent se poser comme question. Est-ce que ça a été facile financièrement ?
Non, ça n'a pas été facile. C'est un film tout à fait nouveau dans le genre. Donc sur le papier, il était quasiment invendable. Je pouvais pas poser de réelles références à part des films américains, dire voilà, mon film va ressembler à tel film ou à tel film ou à tel succès, etc. Donc c'est vrai que pour moi ça a été très difficile. J'ai réussi quand même à avoir le soutien de Canal+ et de Art Devoir, une société de production française, donc qui me soutiennent aujourd'hui dans ce projet. Mais c'est vrai que ça a été une tâche très très difficile. J'ai réussi à déclencher et à susciter cet intérêt en tournant des essais caméra il y a un an. Et ces essais caméra, cette imagerie, cet univers a vraiment attiré l'attention de pas mal de gens, mais on est en dehors des lignes marketing et commerciales sur lesquelles on a l'habitude d'attendre le cinéma africain.
Merci beaucoup Toumani pour votre participation. Je sais que vous nous donnez un peu de temps et vous êtes en montage, donc on va vous libérer et on va inviter nos auditeurs à aller sur internet pour pouvoir voir un peu ce que vous faites, et on reste vraiment branché pour attendre la sortie de ce beau film qui va retracer une belle partie de la culture malienne tout en divertissant. Merci Toumani Sangaré. On a des auditeurs qui souhaitent participer. On a d'ailleurs un appel qui nous vient de RDC avec Monsieur Tikambika. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez?
Oui.
Alors, quel est votre avis sur le thème le cinéma africain? Comment faire pour le développer, lui donner une meilleure visibilité? Qu'est-ce qui, selon vous, pêche ou qu'est-ce qui, selon vous, permet l'optimisme? Est-ce que vous me recevez? En attendant qu'on puisse avoir votre réponse, je vais aussi me tourner vers toi, Azourma. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Toumani?
Je pense que c'est une intervention qui retrace en fait la situation actuelle en fait du cinéma. C'est un cinéma africain qui, comme j'ai dit au départ, qui veut se réinventer. Mm-hmm. Et donc le besoin d'adopter des plans marketing qui appellent, qui intéressent aussi des investisseurs, que les banques puissent trouver que le projet il est viable, il est bankable, comme on dit. Mm-hmm. C'est important. Donc, je comprends aussi la difficulté d'être dans un environnement où il faut inventer les choses. Donc, il n'y a pas forcément de référence. Et oui, il l'a dit lui-même, c'est difficile de dire à quelqu'un, un investisseur, écoute, il y a un film qui ressemble à mon film qui a fait tel montant. Et donc, si tu me finances, bon, tu auras la possibilité. Ce qui est quelque chose de très courant aux États-Unis ici, par exemple. Tout film a besoin d'avoir en fait une référence. Ça fait partie, oui, en fait des 5 premières lignes lorsque tu écris ton plan marketing, de pouvoir en fait donner une référence à l'investisseur pour dire écoute, mon film c'est tel film plus tel film plus tel film, et tu fais la combinaison. Donc c'est quelque chose en fait que je pense que bon, de plus en plus on y arrive, on va y arriver. Il y a de grands espoirs en tout cas, et je pense que bon, on aura peut-être le temps de parler aussi de l'aspect formation qui est
très important,
super important. Ouais.
Alors pour parler de se réinventer, de créer, on a des soucis aussi en Afrique des fois avec les salles, on a des manques de salles, et pour se réinventer on a un exemple qu'on peut prendre du côté de Dakar avec, je l'espère, Dio Guy Ramaka qui sera peut-être avec nous en ligne, qui lui a décidé, pour pallier à ce manque de salles, de carrément créer un festival en plein air du côté de Gorée. Bonsoir Ramaka, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne depuis Gorée, oui.
On vous entend super bien, donc on va en profiter. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre festival en plein air pour permettre d'avoir du cinéma pour tous?
Alors, je voulais d'abord dire qu'il ne s'est pas agi de créer le Gorée Cinéma, mm-hmm, pour suppléer au manque de salles de cinéma.
Ah oui, il faut préciser, n'hésitez pas. Le micro vous est ouvert et tendu.
Le Gorée Cinéma est une manifestation festivalière qui se passe durant l'été, sur 4-5 jours pour la prochaine manifestation qui se passera du 9 juillet, excusez-moi, du 7 au 9 juillet, dans le cadre d'une semaine consacrée au cinéaste Amène Ousmane. Voilà pour ce qui est du Gorée Cinéma.
Alors justement, on parle, oui, c'est parfait que vous nous parliez de Ousmane Sambène. On va parler aussi d'un rendez-vous qu'on a ici du côté de Washington. C'est bien le 6 juin, c'est ça?
C'est ça, le 6 juin, il y aura une rencontre inédite entre la FEPACI, l'UNESCO et puis la fondation de Martin Scorsese. Le but de cette rencontre sera de signer un contrat, un accord en tout cas, pour lancer en fait ce vaste programme de restauration des films africains qui a été initié par Martin Scorsese lui-même. Comme mon aîné Cheikh Omar Sissoko l'a dit, il y a déjà le film La Noire 2 de Sambène qui a été restauré. Cannes, et donc il sera projeté au Festival de Cannes le 22 mai prochain, et c'est une opportunité de repartir dans le passé, de voir ce grand film, ce beau film, La Noire 2.
Joe Guy Ramaka, est-ce que pour vous il est important qu'on puisse avoir des références comme celle-ci au niveau du cinéma africain, de façon à peut-être générer d'autres talents, d'autres envies de faire du cinéma?
Oui, il faut aussi dire que la capacité des cinéastes africains à commettre des films majeurs n'est pas en cause. Il n'y a aucun doute à avoir par rapport à cela.
Alors même s'il n'y a pas, même s'il n'y a aucun doute effectivement, même s'il n'y a aucun doute effectivement dans le commun des mortels, le cinéma c'est un métier qui fait, cinéaste c'est un métier qui fait peur dans les familles africaines, parce que c'est pas un métier où on a forcément une stabilité. C'est en soi où des festivals comme le vôtre, des rencontres comme celle du 6 juin sont importantes. Et j'aimerais avoir aussi votre avis sur le cinéma au Sénégal par exemple.
Alors, on pourrait prendre un exemple. La grande question qui se pose par rapport au développement de l'Afrique, parce que je crois que la question du cinéma doit être vue à travers du développement du continent. Est-ce qu'on s'entend bien?
Allô? Oui, je suis avec vous, excusez-moi. On a cru qu'on avait un problème technique, mais tout va bien, on vous entend très bien, le son est parfait.
Voilà. Alors, une fois que l'on accepte de situer la question du cinéma dans le contexte global du développement et du mal développement de l'Afrique, on peut ensuite voir une autre étape. Je voudrais vous donner un exemple. C'est la téléphonie et le développement donc du téléphone qu'on appelle communément du smartphone, qui nécessite une technologie de pointe très chère. En termes d'investissement.
Tout à fait.
Mais qui s'est avéré appliqué à l'Afrique un secteur complètement rentable. Les bénéfices générés par le téléphone dans les pays pauvres, par Orange notamment, pour prendre l'exemple français, sont considérables. La filière africaine de Orange s'est avérée même plus rentable que ses filières européennes.
Tout à fait, c'est vrai qu'on le sait et c'est pour ça que ça se développe énormément, oui. Ça veut dire, vous disiez,
Ça veut dire que malgré le sous-développement de l'Afrique, quand on accepte d'y investir une technologie chère, de pointe, sa rentabilité est établie.
En tout cas, ces explications, j'espère, vont motiver.
C'est que le cinéma, si on prend l'exemple du cinéma du Sénégal, il y a de cela 25 ans, était déjà un secteur rentable. Il était à l'époque sous l'apanage de deux structures françaises commerciales, la SEGMA et la Comacito. Ces deux circuits ont été nationalisés, rachetés par l'État, et on continue à être rentable.
Alors, je me permets d'ajouter pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont des financiers potentiels, le cinéma est rentable. N'hésitez pas à investir dans des nombreux projets qu'on vous propose qui peuvent aussi améliorer l'image de notre société, car le cinéma, on peut aussi y passer des messages, tout comme se divertir. Étant donné que nous avons beaucoup d'auditeurs, on va essayer de vous reprendre un peu plus tard et je vais poser cette question aux auditeurs. Pour vous, le cinéma, est-ce un moyen de se divertir ou de faire passer des messages? Nous avons également parmi les invités qui sont en ligne le réalisateur Daouda Koulibaly qui a réalisé un film qui s'appelle Youlou, où on parle du trafic de stupéfiants. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Daouda?
Je suis avec vous, oui, bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous depuis Nantes, dans une province de France. Quel est votre avis à vous sur le cinéma africain et comment vous avez pu réaliser votre film? Est-ce que ça a été facile, car vous l'avez entièrement réalisé sur le continent africain?
Facile, vous posez la question à tous les réalisateurs, ils vont vous dire que non, c'est jamais facile d'avoir son projet financé et de le mener jusqu'à son terme. Mais étant dans la situation de quelqu'un qui a terminé son film, donc j'ai pas envie de me plaindre. Je pense que c'est
d'ailleurs il est bientôt en salle, il est en salle à partir du 14 juin si j'ai bien noté.
Oui, c'est ça. Sorti en France le 14 juin, oui.
Et en Afrique?
En Afrique, il a déjà été vu, il a été exploité à Bamako, notamment au mois de décembre. On est parti le présenter en avant-première. Et puis,
on l'a vu également chez Spaco.
Au mois de janvier, il était également au FESPACO, il a été projeté à Dakar, il a été projeté à N'Djamena, à Abidjan, et il continue à tourner également en Afrique.
Je rappelle que les acteurs principaux sont Ina Modja et Ibrahim Koma. Donc c'est vrai, ça n'a pas forcément été facile, mais vous avez réussi à le faire. Et pour vous, le cinéma est aussi un moyen de faire passer des messages ?
Oui, c'est le tout dans tout film, on combine au moins trois éléments, c'est-à-dire qu'il y a la part de divertissement, il y a aussi pour certains films une expression artistique, et puis il y a la dimension politique qui effectivement peut faire passer des messages. Mais c'est ce qu'on retrouve à peu près dans tous les cinémas. La particularité peut-être du cinéma africain, c'est qu'il insiste beaucoup sur le côté politique. J'imagine qu'il y a la plupart des réalisateurs, des cinéastes africains, des réalisateurs, des réalisatrices, elles ont envie d'en découdre aussi avec l'actualité du continent. C'est pour ça qu'on le ressent de manière aussi forte sur le plan politique, sans doute.
Et Kia, et si tu permets, je voudrais juste poser une question à notre ami de qui est à Nantes. Déjà, moi, j'aimerais savoir quelle est votre position vis-à-vis de ce besoin, cette nécessité même, je veux dire, de trouver le moyen d'élargir, en fait, le marché que Nollywood a réussi à créer.
Oui, je suis pas sûr que Nollywood soit une référence qui peut s'appliquer partout en Afrique, mais effectivement, vous avez prononcé le mot clé, c'est-à-dire le mot marché. Il faut commencer à appréhender le cinéma comme en termes de parts de marché. Conquérir des parts de marché, ça veut déjà dire créer le marché. En Afrique, il n'existe pas. Il n'existe pas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de salles, ou très peu, qui sont exploitées. Et quand elles sont exploitées, elles fonctionnent beaucoup avec des films américains. Donc il faut déjà s'occuper de créer les conditions qui permettent qu'un marché africain se développe et soit rentable pour le cinéma africain.
Et comment vous expliquez alors qu'on est le continent africain, c'est quoi ? C'est quand même 800 millions d'audience, hein. Si on regarde un peu, ne serait-ce que même les États-Unis, c'est 300 millions. Il y a quand même une force de frappe qu'on pourrait utiliser. Vous en pensez quoi?
Oui, il y a du potentiel, mais pour exploiter ce potentiel, il faut créer des salles, il faut donner du pouvoir d'achat. Il ne suffit pas d'être un milliard sur le continent, il faut que ce milliard d'Africains puisse avoir les moyens d'aller au cinéma. C'est compliqué. Par exemple, je prends un exemple que je connais un peu mieux, le Mali. Il y a une salle qui fonctionne à Bamako, mais les tickets d'entrée, c'est par exemple 2000 francs. Alors c'est pas
pour certains c'est pas énorme, mais pour d'autres c'est pas accessible.
Mais oui, pour d'autres c'est prohibitif. Quand vous gagnez 45-50 000 francs par mois, vous pouvez pas vous permettre d'aller emmener votre famille et de payer des tickets à 2000 francs. Donc
Daouda Koulibaly,
tout un écosystème qu'il faut créer.
Daouda Koulibaly, restez avec nous. On a de nombreux auditeurs qui veulent participer et s'exprimer, notamment Diallo Tcherno Oumar. Bonsoir.
Oui, bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs.
Alors, vous voulez donner votre avis sur le thème ? Nous vous écoutons.
Oui, à mon avis, c'est un thème très important. Mm-hmm.
C'est un thème important et malheureusement, on ne vous entend pas. Allez-y, exprimez-vous.
Oui, très malheureux. Elles ne sont pas... Ils n'ont pas de ressources matérielles et financières. Les cinéastes africains sont toujours considérés comme des sommaires. Personne n'est considéré même dans leur propre famille. C'est très négligeable. Les États aussi n'arrivent pas à mettre les moyens. Oui, les films africains, vraiment, je suis vraiment satisfait malgré leurs maigres moyens. Mais vraiment, à mon avis, c'est très chose qu'on doit prendre au sérieux et de financer correctement pour que le cinéma africain soit l'un des meilleurs du monde. Merci la Véra et l'ensemble de vos auditeurs.
En tout cas, je vous remercie pour votre intervention, Diallo Tierno Oumar. Je remercie également Daouda Koulibaly, car l'émission se termine. Et le cinéma, c'est bien, n'hésitez pas à en regarder. On peut prendre l'exemple de Balle Poussière, dont nous sommes nombreux à connaître les répliques. Donc voilà, le cinéma peut faire passer des messages et adoucir les mœurs. C'est bientôt la fin. Je remercie toute la technique d'avoir participé et d'avoir mis en scène cette belle émission, notamment Sidrac Franklin, Lionel Gaïma et Michel Joseph. A très vite pour vos infos. Restez sur VOA.